J'ai monté une agence qui s'appelle YZ, j'ai monté ça il y a 5 ans. C'est une agence de branding, de communication, de publicité. En termes de métier, d'expertise, c'est assez conventionnel, même s'il y a un angle quand même assez digital. Notre différenciation, c'est le choix de nos clients et notre façon de travailler. Le choix de nos clients, on essaie de travailler principalement avec des acteurs à impact. Donc, on travaille beaucoup avec des fondations, avec des associations, avec des startups à impact, avec des organismes publics, semi-publics. On bosse pour l'ADEME, on bosse pour l'Agence française de développement, etc. Voilà, pour n'en citer que quelques-uns.
Et est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire à impact?
Alors, en fait, c'est un terme qui est facile pour ranger les gens dans les cases et qui est en même temps un terme que moi, j'aime pas trop. Parce que bon, attends, je vais déjà expliquer ce que ça veut dire. Après, je dirai pourquoi je l'aime pas trop. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, vous avez tous entendu parler impact positif. Tout le monde parle de ça. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous connaissez bien ce sujet, etc. Bon, impact positif. Théoriquement, ça voudrait dire que au lieu de faire du mal à l'environnement et à la planète et à l'avenir, bah, on fait du bien. Voilà. Donc, du coup, on range tous les projets qui sont des projets un peu régénératifs, qui essaient de faire de la transition énergétique, transition alimentaire, dans cette catégorie-là. Et je suis pas super à l'aise avec ce terme parce qu'en fait, avant de parler d'impact positif, faut vraiment se lever de bonne heure avant que une action industrielle, une entreprise fasse réellement du bien et soit régénérative, etc. Faut vraiment, vraiment, vraiment y aller. Donc moi, je préfère plutôt parler de réduction des impacts négatifs plutôt que d'impact positif. Et bon, c'est intéressant que tu me questionnes sur ça parce que c'est un peu le cœur du sujet du greenwashing, en fait. C'est souvent, le greenwashing, c'est survaloriser des petites réductions d'impact et d'en faire tout d'un coup un impact positif.
Voilà. Bah, tu me fais une transition parfaite.
Et ben voilà.
Première question, c'est comment est-ce qu'on le définit? J'ai découvert la définition en lisant ce que tu m'avais envoyé. Comment toi, tu, avec tes mots, comment est-ce que tu définis le greenwashing?
Bah, y a plein de définitions. Celle-là, c'est une définition que j'ai un petit peu compilée, qui reste un peu longue. Je vais essayer, sans la lire, de résumer avec mes mots comme ça. C'est une pratique commerciale trompeuse. Je prends ces premiers mots parce qu'ils sont importants et c'est les mots. Et on peut dire ça maintenant depuis la dernière loi climat et résilience qui est passée au mois d'août de l'année dernière, qui est un milestone important parce qu'à partir de maintenant, on considère juridiquement parlant le greenwashing comme une pratique commerciale trompeuse qui donc tombe sous le joug de la loi et qui est punissable pénalement. Et qui consiste à quoi? Qui consiste soit à mentir sur la réalité de l'impact écologique d'un produit, soit, le plus souvent, et on va le voir par la suite, à survaloriser un tout petit truc pour cacher la forêt des impacts négatifs. En général, c'est plutôt ça qui se passe, et c'est ça qui rend le truc un petit peu fourbe, un petit peu traître, et parfois, même souvent, les marketeurs, comme vous et moi, ben, on ne se rend même pas forcément compte de ce qu'on est en train de raconter. Donc, il y a un enjeu de proportionnalité des messages qui est fondamental.
Et qui régule ça? Qui contrôle ça?
Alors, initialement, jusqu'à cette fameuse loi là, qui est passée l'année dernière et sur laquelle je veux revenir, on est uniquement sur de l'autorégulation. Donc, vous savez, il y a des organismes d'autorégulation de la profession publicitaire. Donc, il y a le gros truc qui chapeau tout qui s'appelle la ACC. Donc, il y a un truc qui dépend de ça qui s'appelle un truc. Je sais que c'est enregistré, mais je vais essayer de parler mieux, excusez-moi. Donc, il y a un organisme qui s'appelle l'ARPP. Et de cet organisme dépend un jury qui s'appelle le jury de déontologie publicitaire, le JDP, qui est là pour principalement récupérer des plaintes. Donc, si vous voyez une campagne passer, qu'elle vous paraît un peu borderline, bon, ils exagèrent un petit peu trop, on l'envoie un mail, on saisit le JDP, le jury de déontologie publicitaire, qui va donner un avis positif ou négatif sur cette campagne. C'est uniquement consultatif, c'est de l'autorégulation, c'est la profession qui s'autorégule. Donc, vous voyez un peu les limites de l'exercice, quoi, en gros. Il y a des avis qui parfois sont négatifs sur des campagnes, d'autres, moi j'ai vu passer des campagnes qui étaient ouvertement, de mon point de vue en tout cas, du greenwashing, qui n'ont pas été sanctionnées. Donc jusqu'à cette année, en fait, c'était ça qui prévalait. ce qui s'est passé, donc il y a eu la fameuse convention citoyenne pour le climat, donc il y a 2 ans, avec une centaine de propositions, 150 propositions, pardon, dont certaines propositions pour la régulation de la publicité. Il y avait des propositions qui étaient extrêmement fortes, hein, comme l'interdiction de la publicité pour certains secteurs d'activité les plus polluants, certaines tranches de voitures, les trajets aériens sur des distances inférieures à un certain nombre d'heures, etc. Bon, tout ça a été relativement édulcoré, notamment grâce à une action forte du lobby publicitaire qui n'est autre que les lobbies des annonceurs, hein, donc l'automobile qui appelle les agences pour dire « écoute, t'es gentil, mais il va falloir calmer un petit peu tout ça ». Donc bref, in fine, on se retrouve quand même avec une loi climat et résilience qui est passée au mois d'août de l'année dernière qui contient un certain nombre de dispositions, dont celle-là, d'assimiler le greenwashing à une pratique commerciale trompeuse et l'interdiction progressive de la publicité sur certains secteurs, typiquement d'ici 2028, je crois, interdiction de la publicité pour les véhicules qui polluent plus de 95 grammes de CO2 par... etc. Bon. Donc, il y a quand même des choses qui sont mises en place. Et pour répondre à ta question, aujourd'hui, on est en train de passer de l'autorégulation à la régulation par le législateur, donc avec un aspect pénal.
Et un petit chiffre, tu voulais nous en parler?
Non, je pense que ça, depuis ce matin, vous avez dû en parler pas mal. Pourquoi est-ce qu'il y a du greenwashing, en fait? Pourquoi il y a du greenwashing? Bah, parce que les consommateurs, aujourd'hui, sont en attente, sont sensibilisés, pardon, aux enjeux environnementaux. Ils ont envie de changer les choses, ils ont envie d'agir pour l'environnement, mais ils ont aussi envie de ne pas trop faire d'efforts. On est tous un petit peu dans ce cas-là. On se dit, ah ouais, il y a des problèmes, il faudrait faire quelque chose, etc. Mais bon, après, si on peut changer le moins possible nos habitudes, c'est pas mal. Donc, c'est ça le greenwashing, c'est essayer de déculpabiliser le plus facilement possible les consommateurs pour continuer à consommer comme avant. Et voilà.
Et pour entrer dans le cœur de notre sujet, vous avez sorti un guide sur le greenwashing.
Ouais. Ouais.
Que vous avez créé avec vos bonnes pratiques.
Ouais.
Et je voulais que tu nous en parles un peu, que tu nous partages un peu les 9 points les plus importants.
Carrément. Alors, notre guide, en fait, hein, on a juste synthétisé un certain nombre d'informations existantes. Donc, il y a les signes du greenwashing selon l'ADEME, il y a aussi les recommandations de la RPP, il y a la loi climat et résilience. On a essayé de synthétiser un petit peu tout ça. D'abord pour nous, parce que nous, en tant qu'agence de communication, on est confrontés concrètement jour après jour au risque de greenwashing. Et donc, on connaît la difficulté d'aborder ce sujet-là. Moi, ma conviction, c'est que, bon, je ne suis pas angéliste non plus. Je pense qu'il y a des gens qui veulent délibérément tromper le consommateur. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de campagnes de greenwashing qui sont maladroites, en fait, qui sont juste parce que les gens sont pas très bien informés ou souvent ils sont tellement contents de leurs produits. On voit ça dans les marques un peu positives, entre guillemets, les marques de transition. Ils font un yaourt bio, donc du coup, bam, ça part dans tous les sens et on se permet de raconter tout et n'importe quoi. Toujours cet enjeu de proportionnalité. Donc, en gros, si on regarde les 9 signes du greenwashing qui sont définis dans l'excellent guide créé par l'ADEME avec l'aide d'un expert sur le sujet qui s'appelle Mathieu Janich, dont vous avez peut-être entendu parler. Si ce n'est pas le cas, je vous incite à le chercher sur Google. C'est une des personnes les plus référentes sur ce sujet. Il y a le mensonge. Bon, c'est-à-dire, juste officiellement, on raconte n'importe quoi, on ment sur le produit. Concrètement, ce que je vous disais à l'instant, ce n'est pas le cas de figure le plus fréquent, à mon avis. Le deuxième point, c'est la promesse disproportionnée. Là, on est clairement dans le cœur du sujet, c'est-à-dire on promet une action incroyable grâce à un produit, souvent, je passe sur le troisième point, avec des mots vagues. Donc ça, je vous ferai à la fin un petit douzaine d'ondes. Les mots vagues, c'est la planète, c'est la nature, c'est l'avenir, c'est demain, c'est tous ces trucs. Ça, il faut laisser tomber, il faut arrêter, ça marchait il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est la meilleure façon de se faire taper sur la tête. Si vous achetez une bouteille en plastique, même si le bouchon est recyclé ou qu'elle vient de local à côté de chez vous, vous n'allez pas sauver la planète. Donc, c'est une réduction d'impact négatif. Il y a un petit peu moins de plastique, c'est recyclé, c'est ce que vous voulez. Mais ce n'est pas un impact positif et ce n'est pas ça qui va sauver la planète. Donc, tous ces grands mots, il faut essayer de faire attention. Information insuffisante, image trop suggestive, ça, c'est, je dirais, le, la base du greenwashing. Le greenwashing, c'est on met du vert. C'est l'image, c'est-à-dire je vais mettre des plantes, je vais mettre la forêt, je vais mettre la nature, je vais mettre du vert un petit peu partout. Vous vous souvenez de cette gamme de Coca là, qui s'appelait Coca Life, c'était tout en vert, etc. Bon, mais ça, il y en a plein des exemples comme ça. C'est la façon presque la plus facile de verdir l'image. C'est McDo qui était rouge et jaune quand on était petit, puis là maintenant c'est vert, etc. Bon, à la base, ça passe par les images. Après, ça devient par les mots. Et le principal sujet aujourd'hui, ça va être ça, c'est comment est-ce qu'on calibre les messages. Mais faut pas oublier que la technique la plus forte et la plus fourbe et la plus, parce qu'elle agit sur l'inconscient, c'est juste tout simplement réellement de mettre du verre, de mettre des feuilles, de mettre des trucs comme ça. Et ça, on le retrouve encore partout, hein, notamment sur le packaging. Les faux labels, ça c'est aussi une assez bonne combine. Hein. C'est-à-dire, bon, il y a les labels officiels qu'on connaît. Il y a le label bio, évidemment, qui est le plus connu, le label AB, il y a des labels comme ça qui garantissent la certification d'une action pro-environnementale par un organisme tiers. Et puis aussi, après, il y a plein de marques qui vont dire on va faire un truc qui ressemble un peu à un label. C'est assez facile, hein, on fait bosser un designer, on fait un truc, je te sors un truc, c'est agir pour demain, je mets ça dans un petit rond avec un tampon, et puis paf, je le mets sur ma bouteille de shampoing, et ça donne l'impression au consommateur qui, encore une fois, comme je disais alors, n'a pas trop envie de se prendre la tête. Ah bah ouais, super, c'est bon, c'est pour la planète, paf, il y a une feuille et tout, je le mets dans mon caddie et c'est plié. Donc ça, c'est un vrai sujet, et il faut être vigilant là-dessus, et en tant que consommateur, il faut être vigilant par rapport à ce qu'on achète, et en tant que marketeur, il faut être aussi vigilant de ne pas céder à la facilité de ce genre de démarche. Mise en avant hors sujet, ça c'est un dérivatif de la promesse disproportionnée. Hein. C'est je vais mettre en avant un truc qui n'a rien à voir avec mon produit. Rien à voir. C'est peut-être l'action de la fondation de mon entreprise qui fait un truc. Du coup, je mets ça en énorme pour vendre mes voitures ou mes fringues. Preuve inexistante, j'ai pas besoin d'expliquer. Et la fausse exclusivité, ça aussi, c'est un truc pas mal. Promis, c'est la dernière fois que je parle de McDonald's aujourd'hui, mais la fausse exclusivité, c'est s'approprier une contrainte réglementaire. Par exemple, il y a eu une campagne il y a 2 ans de McDo qui disait qu'ils arrêtaient les jouets en plastique. Ils avaient fait toute une campagne de pub là-dessus pour dire qu'ils arrêtaient les jouets en plastique dans les Happy Meal. En fait, 6 mois plus tard, la loi était appliquée et ça devenait interdit, en fait. Donc, vous savez, quand vous achetez un jus de fruits, il y a toujours écrit sans colorant ni conservateur. Obligatoirement, ils doivent préciser conformément à la législation. On ne peut pas se targuer d'obéir à la loi. Donc, malgré tout, cette fausse exclusivité, c'est une combine assez souvent utilisée.
Moi, si je devais en retenir que 2, je pense que tout le monde est profondément bien intentionné quand on fait son boulot, mais ouais. C'est vrai que la promesse disproportionnée et les mots vagues, moi qui bosse dans la com, ouais. c'est vraiment les deux ou l'écueil à éviter. Du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y a des bons principes à se mettre en tête pour justement éviter de tomber dans ce
délire ? Je peux passer ça, vous regardez. Si vous allez voir le guide, on vous donnera le lien à la fin. Si vous voulez vraiment rentrer détail par détail, vous pourrez rentrer là-dedans. On va se faire juste 2-3 petits exemples. Et puis après, effectivement, je répondrai sur ta question, sur des principes. Combien de temps il nous reste, tu me dis ?
10 minutes.
10 minutes, un truc comme ça. Bon, j'ai juste mis 2-3 exemples. Ça, c'est la campagne EasyJet d'il y a 2 ans, je crois. Donc, ils se sont fait pas mal attaquer dessus. Et aujourd'hui, une partie de cette campagne tombe sous le coup des interdictions de la loi, donc c'est la partie de droite. Nous ne donnons pas de leçons, nous compensons nos émissions. Aujourd'hui, la compensation carbone et la promesse d'être neutre en carbone, vous savez, c'est une allégation qu'on ne peut plus faire, qu'on n'a plus le droit de faire, parce qu'elle ne correspond à rien. Donc ça, c'est fini. Vendre un produit en disant c'est neutre en carbone, on n'a plus le droit de dire ça. Et à gauche, c'est un peu plus fourbe, c'est un peu plus subtil. C'est dire, en fait, on fait une espèce de moonshot. On dit en 2050, on sera zéro émission. Ils n'ont aucune idée de comment ils le feront, hein, puisque les technologies aujourd'hui ne permettent pas de faire ça. Donc, on ne sait pas comment ça va arriver, mais on fait une espèce de vague promesse. C'est dans 30 ans, on aura des vols zéro émission. Donc, du coup, vous pouvez continuer à voler dès aujourd'hui et à faire des petits week-ends à Marrakech, il n'y a pas de problème, puisque dans 30 ans, on espère qu'on aura réussi à faire ça. Donc ça, c'est un petit peu plus sournois, mais ça reste effectivement un bon cas de greenwashing. Sur le slide suivant, vous avez donc à gauche, j'ai mis cette campagne parce que c'est assez intéressant parce que, je vais dire pourquoi c'est un problème et après je vais raconter la petite histoire autour de ça. Là, en fait, on vous dit, faites un geste pour la planète, soulevez une petite cuillère. Bon, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur la terminologie et le manque de proportionnalité des promesses. Là, on est en train de te dire, en gros, si tu achètes un yaourt, tu vas sauver la planète, tu vas agir pour la planète. Bah non, ça reste un yaourt qui est dans un pot en plastique, qui est issu de l'exploitation animale. L'élevage, ça représente 13,5% des gaz à effet de serre, c'est 4 fois le transport aérien. Donc non, on ne va pas raconter ça. On ne va pas raconter qu'acheter un yaourt ou l'élevage dans un pot en plastique, ça va faire un geste pour la planète. Ça ne va pas le faire. Donc, deux histoires par rapport à ça. La première, c'est que ça montre les limites de l'autorégulation, puisque cette campagne a été signalée au jury de déontologie publicitaire, pas par moi, mais par le fameux Mathieu Janich dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'est fait une spécialité un peu d'alerter le JDP sur ces sujets. Et ils ont rendu un avis positif sur cette campagne. Ils ont dit non, pas de problème, la campagne, l'accroche est cool, c'est un peu publicitaire, c'est sympa, faites un geste pour la planète, voilà, bon, bref. Les publicitaires qui parlent aux publicitaires, pour eux, il n'y avait pas de problème. Vous voyez bien que tel que je vous présente le truc, il y a un problème. Je ne peux pas dire que acheter un outil jetable en plastique qui contient un produit d'origine animale et donc avec un impact très fort sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est un geste pour la planète. La deuxième histoire, c'est que c'est une campagne que j'ai un petit peu épinglée entre guillemets sur LinkedIn l'année dernière quand c'est sorti. Et bon, le post a généré pas mal de traction. Il y a plein de gens qui sont venus commenter, etc. Et dire, ah ouais, bah c'est du greenwashing, machin, ça. Bon, moi, j'étais pas vraiment offensif dans ma façon de présenter le truc. Hein. J'ai juste dit, bah voilà, ça, c'est un exemple pour moi de greenwashing. Et en fait, ça a déclenché une conversation assez longue avec le président de ce groupe, donc qui est une filiale de Danone, hein, les deux vaches, et une conversation extrêmement intéressante où est-ce qu'on met le curseur dans les messages? Parce que pour eux, il n'y avait pas de problème. Ils ont changé la campagne suite à ça. Et notamment sur le truc dont je vous parlais tout à l'heure, qui est que souvent, en fait, les acteurs vertueux ou qui se considèrent comme vertueux, en fait, se sentent un peu autorisés à émettre tout type de messages. Et aller jusqu'à des surpromesses type ça va sauver la planète. Bah non, ça va pas sauver la planète. Tout est cloisonné en fait. Tu peux faire du bio mais le vendre dans des trucs en plastique, tu peux faire du bio mais l'importer de Nouvelle-Zélande, tu peux agir sur le sociétal et payer équitablement les producteurs tout en réussir à cocher toutes les cases de ce qui serait potentiellement l'impact positif, on va pas se mentir, c'est impossible. À partir du moment où vous vendez un produit industriel qui est fabriqué dans des usines, qui est exporté par des camions, laisse tomber, ça ne va pas exister. Donc en fait, il faut impératif de proportionnalité. On dit ce qu'on fait, on dit la réduction des impacts négatifs, mais on ne part pas, à dire qu'on va faire un geste pour la planète. Bon, après, deux autres exemples. Bon, le logo Mercedes transformé en éolienne à la fin du film, je n'ai pas besoin de le commenter, c'est une dinguerie. Et il y avait aussi ce petit exemple là sur Daddy qui avait fait une campagne pour expliquer que le sucre est une plante, parce que ça vient de la betterave, etc. Donc là, on essaye un peu de brouiller les pistes dans l'esprit du consommateur. Le sucre, c'est une catastrophe sanitaire, mais on va essayer de raconter que c'est un peu comme de manger des légumes. C'est le genre de billard à trois bandes, évidemment, qu'il faut essayer d'éviter si on veut avoir un minimum d'honnêteté dans notre communication. Voilà. Donc, en gros...
Si tu avais quelques recommandations.
Quelques recommandations. En fait... Après, le dernier slide, c'est un petit slide de do's and don'ts. Là, c'est un slide un peu de posture. Excusez-moi, je ne sais pas comment est composée l'audience. En fait, qui travaille dans le marketing et dans la communication et dans la création de messages publicitaires, d'une manière générale? Ok, bon, une bonne partie d'entre vous, très bien. Donc en fait, ce qui est intéressant avec le greenwashing, et challengeant avec le greenwashing, c'est que c'est une attaque en fait sur les fondamentaux de la publicité et du marketing. Okay, la publicité, depuis 100 ans, peut-être depuis un petit peu moins de temps, depuis l'époque, depuis 50, 60, 70 ans, Mad Men et compagnie, c'est une école du storytelling, du grossissement, de l'hyperbole. On raconte des histoires parce que c'est ça qui intéresse les gens. Et évidemment qu'on est dans l'hyperbole, évidemment qu'on est dans l'exagération. On n'est pas là pour dire la vérité, on est là pour raconter des histoires parce que c'est ça qui emmène les gens, c'est ça qui fait plaisir aux gens et c'est ça qui les séduit. Non, le greenwashing, c'est autre chose. C'est dit, le risque de greenwashing, ça vient attaquer ça. Ça veut dire, tu ne peux pas raconter n'importe quoi. tu peux pas raconter n'importe quoi. Autant avant, c'était cool. Bah ouais, j'allais mettre une fille en bikini à côté de ma voiture et les gens, ils allaient m'acheter ma voiture. Personne n'allait dire, bah non, c'est exagéré. Bah, aujourd'hui, même ça, c'est un autre sujet, mais c'est devenu exagéré aussi. Mais bon, pour la prochaine conférence. Mais aujourd'hui, si je dis La Poste fait un truc zéro carbone, livraison de zéro carbone avec WWF et qu'ils mettent des pandas partout sur des colis, bah non, ça marche pas. C'est une instrumentalisation de l'imagerie naturelle, etc. On est dans l'hyperbole, on est dans le mensonge, et c'est pas possible. Donc en fait, il faut réussir à faire shifter notre mindset de publicitaire, de communicant, de marketeur et changer un peu de posture. On peut plus se permettre le mensonge, il faut aller vers de l'honnêteté. La prétention, bah non, essayez plutôt d'avoir de la modestie. La désinvolture, parce que souvent on laisse passer des trucs, etc. Ben non, il faut essayer d'être ultra lucide. Et je vous le dis, nous en tant qu'agence, moi je me fais encore avoir sur des trucs que je rattrape in extremis avant que ça sorte, en me disant mais non, attends, c'est pas possible. En fait, on s'est fait avoir, on s'est fait parce que on nous a fait bosser sur une série ultra limitée d'une gamme de produits et on veut faire une énorme campagne là-dessus alors que ça représente 0,5% des ventes globales de la marque. Ben, ça, c'est du greenwashing concrètement. Exagération, bah, il faut avoir de la proportionnalité des messages et effectivement il faut passer du storytelling à la transparence. Vous avez vu je crois que le précédent intervenant avait présenté la campagne Back Market, c'est ça la dernière campagne Back Market?
Ouais.
Bon, bah, la dernière campagne avec les chiffres là, ça c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple de campagne qui réussit à mixer écriture publicitaire, parce que c'est quand même créatif, c'est bien écrit, etc., avec cette exigence de factualité, de transparence. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on parle de la réduction des impacts négatifs, pas de l'impact positif. C'est la différence entre un smartphone neuf et un smartphone d'occasion, c'est 60 millilitres d'eau, etc. Ça, c'est un bon benchmark. Et en gros, garder deux, trois trucs à avoir en tête. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez télécharger notre guide. Puis vous pouvez surtout aller voir le guide de l'ADEME, les recommandations de la RPP si vous voulez vraiment vous plonger là-dedans. Mais parfois, il vaut mieux avoir deux, trois informations qui restent en tête plutôt que plein qu'on oublie. Les don'ts, je vous l'ai dit tout à l'heure, les grands mots, franchement, il faut oublier. La planète, la nature, demain, l'avenir, tous ces trucs, il y a 10 ans, tout le monde adorait raconter ces histoires-là. Aujourd'hui, c'est mort. Ça devient en fait un énorme red flag sur le fait que ça greenwash, parce qu'en fait, on en fait des tonnes, on n'a pas conscience de la réalité de l'impact de notre produit, on se croit tout permis. Et voilà. Donc, et ça marche pour les images aussi, hein, évidemment. Quand je parle de la planète, le mot, c'est pas top, mais les visuels aussi de planète, de nature, tous ces trucs-là, il faut essayer vraiment d'éviter ça. C'est mon deuxième point, mettre du verre et des plantes partout, je le disais en introduction. Troisième point, c'est cette exigence de proportionnalité. Mettre la lumière de façon disproportionnée sur un petit acte vert. Mais il y a des dingueries hein, dans ce truc-là. Il y a vraiment des dingueries. Mais moi, j'ai vu un truc, une fois, c'était une marque d'eau en bouteille, très connue, qui mettait sur les... C'était quoi, l'année dernière ou il y a deux ans, qui mettait sur les étiquettes des actes. Donc en fait, et il y avait acte numéro 5, installer des nichoirs à oiseaux dans les Vosges. C'est un délire quand on y pense. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont dû installer, allez quoi, peut-être 20, 30 petits perchards à oiseaux dans la forêt, et ils affichent ça sur les bouteilles comme argument écologique pour prouver l'engagement de la marque et continuer à déculpabiliser les gens de consommer de l'eau en bouteille. Donc c'est une folie. Donc ça, faut éviter. Et le dernier point, j'en ai parlé également, croire que tout est permis parce qu'on est une marque engagée. Ce n'est pas parce que vous essayez de faire le bien et que vous agissez parce que vous êtes plus local, plus bio, réduction des emballages, tout ce que vous voulez, que bah, du coup, c'est open bar et on peut se permettre de raconter tout n'importe quoi. Et c'est même contre-productif parce que du coup, c'est l'exemple que j'ai donné avec la campagne des deux vaches tout à l'heure. Bah, aujourd'hui, ça donne une perception de greenwashing et de malhonnêteté sur un produit qui fondamentalement effectivement est mieux disant par rapport à d'autres. Ah bah c'est fini.
Ça va revenir.
OK. Et après sur les attends, ça va revenir. Très bien. Très bien. On fait des économies d'énergie.
Exactement. En interlude, j'avais une petite question pour toi.
Ouais.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de publier une campagne et après de te dire oh la catastrophe?
Ouais, mais pas sur l'aspect environnemental. Ça m'est arrivé sur d'autres aspects de représentation sociétale, de la famille, etc. J'ai fait une campagne il n'y a pas très longtemps. On a fait une campagne il y a pas très longtemps. on s'est retrouvé avec une représentation un peu traditionnaliste de la famille. Non, c'est le jour du tournage. Le jour du tournage, on arrive et en fait, et bon, ça fait 3 mois qu'on est en pré-prod et tout. Je vois passer les scripts, les trucs. Je fais pas gaffe. Et là, on arrive le jour du tournage et on se retrouve avec un père en train de jouer au foot dehors dans le jardin. Et puis la maman, elle leur fait coucou derrière la fenêtre de la cuisine. Et là, je me dis merde, comment j'ai laissé passer ça. Donc là, on est jour du tournage. Je fais waouh, arrêtez tout, il faut qu'on change les trucs, etc. Donc on a tout shifté le script, ce qui était possible. Le père de famille s'est retrouvé à porter le sac de linge et tout. Enfin, on a tout réorganisé. Bon, bref, pour essayer de réorganiser un peu la perception. Non, sur la partie environnementale, jusqu'à présent, on a réussi à mettre le frein à main sur des trucs, sur des accroches, effectivement, trop hyperboliques, sauver la planète, machin, pour des produits avec des réductions de plastique, où il y avait des accroches, effectivement, un peu dithyrambiques qui étaient inadaptées. Après, franchement, honnêtement, c'est le dernier point, hein, c'est, voilà, faut reconnaître ses erreurs, faut être transparent, faut être modeste. Je sais très bien qu'on peut tomber dans le panneau et le risque il est présent en permanence. Et pour moi, l'idée n'est pas de dire il y a ceux qui font bien les choses, il y a ceux qui font pas bien les choses. L'idée, c'est d'être le plus vigilant possible, le plus lucide et d'essayer de s'améliorer.
Et en conclusion, je me demandais, toi qui bosses avec ces sujets-là un peu au quotidien, comment est-ce que tu éduques tes partenaires, tes prestataires, les annonceurs avec qui tu travailles? Comment est-ce que tu arrives à faire de la pédagogie autour de ça? En parler.
Je fais de la pédagogie avec ceux qui sont déjà un peu sensibilisés, je vais te dire. Ceux qui n'y sont pas sensibilisés, en vrai, ça les concerne pas vraiment. Donc, en fait, j'ai du mal quand même à faire rayonner un petit peu. Après, quand on fait ce genre de démarche, on se rend compte quand même, c'est un peu la même chose que vous faites cette semaine, hein. C'est important de faire passer cette parole-là, de générer de la conversation. Ça permet d'ouvrir un peu l'esprit, d'essayer de faire mieux les choses. Donc, c'est principalement par ça. Hein. C'est des formations, c'est des supports, c'est des rencontres.
Ah bon ?
Voilà.
Bon, bah merci, Julien.
Eh bien, avec plaisir, c'était super.
Merci, c'était cool.